Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Jocelyne Moussao à la présentation.
Bienvenue dans votre édition du soir. L'actualité s'ouvre sur une note festive avec l'ouverture du tout premier festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa, un événement qualifié de levier pour l'unité nationale et la redynamisation du secteur touristique par le président Félix Tshisekedi. Pendant que la capitale vibre au rythme de la rumba, la province de la Tshopo engage la riposte sanitaire contre le choléra. Et à Kinshasa même, la population s'interroge sur la gravité réelle de l'épidémie entre scepticisme et manque de communication. Et en fin d'édition, nous recevrons Félicité Ntanga, coordonnatrice de l'ONG Coffee Vide. Elle s'exprime sur la décision controversée de maintenir les filles enceintes à l'école. Bonsoir à tous. La première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme a ouvert ses portes ce mercredi au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. À cette occasion, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exprimé le souhait que cet événement contribue à raffermir l'unité nationale et à redorer l'image de la RDC. Il s'est réjoui que ce festival inaugure une nouvelle ère de paix et de développement durable à travers le pays. Un extrait du discours de Félix Tshisekedi. Dit proposé par Blaise Ndongala.
Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. À travers sa thématique, la route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo, ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. Il met en lumière avec force le rôle de la musique comme moteur de voyage, de dialogue interculturel, de valorisation identitaire, mais aussi comme catalyseur de développement économique. Il souligne également avec pertinence le rôle structurant du tourisme dans la consolidation de la paix, la préservation de l'intégrité territoriale et la lutte contre la pauvreté dans notre pays.
Ce festival de 3 jours se déroule de manière simultanée au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, à l'esplanade du Palais du Peuple et à l'échangeur de Limété. Je l'ai dit dans les titres, dans la Tshopo, le ministère provincial de la Santé lance la campagne de vaccination contre le choléra. La cérémonie officielle présidée par le gouverneur de province intérimaire a eu lieu hier dans la zone de santé de Wanyerukula, située à 58 km à l'est de Kisangani. Cette activité se déroule dans 3 zones de santé les plus touchées par cette épidémie. Les explications avec Jacques Mukonkole.
Cette campagne de vaccination contre le choléra est une première dans la province de la Tshopo. Elle va durer 5 jours avec 2 jours supplémentaires de ratissage. Elle est organisée dans 3 zones de santé les plus touchées. Il s'agit de Wanyerukula, Lubunga et Opala. À elle seule, elle totalise 30% de la létalité cholérique enregistrée dans la province de la Tshopo, selon le ministre provincial de la Santé par intérim, Simon Massimango. Hormis les enfants de moins d'un an, toutes les autres tranches d'âge sont concernées sur plus de 99% de la population attendue. En vue de la réussite de cette campagne, le gouverneur de province par intérim, Didier Lomoyo Iteku, demande aux autorités politico-administratives, aux organisations communautaires et aux familles de s'engager activement. Le chef de bureau de l'OMS Tshopo, le docteur Willibar Viko Kowengbia, plaide pour que la vaccination soit alliée à la sensibilisation communautaire en vue de l'efficacité de la lutte contre cette épidémie. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Si à Kisangani, les autorités multiplient les efforts pour vacciner massivement la population, à Kinshasa, la riposte se heurte à un autre défi, convaincre l'opinion de la gravité de la situation. Plusieurs Kinois restent sceptiques sur la gravité de la maladie, malgré les alertes. Pour certains, les chiffres sont exagérés, car si c'était le cas, il y aurait aurait plus de communication sur les sujets. D'autres parlent de manque de sensibilisation sur les mesures barrières. Pourtant, d'après des chiffres publiés lundi par le ministre de la Santé, Kinshasa compte déjà 2085 cas cette année. Toujours selon lui, une dizaine d'enfants de l'orphelinat Mama Coco de Mangafula viennent aussi d'en faire les frais. Sarah Sumbela a circulé dans les rues de Kinshasa. Elle rassemble les différents points de vue dans ce reportage.
Les chiffres annoncés par le ministre tant national que provincial de la santé sur le choléra à Kinshasa font douter plus d'un quinois. Pour certains, la maladie existe, mais les chiffres donnés sont faux.
Les chiffres énoncés par le ministère concernant l'épidémie du choléra, c'est exagéré. Pourquoi? Parce que et dans la capitale, il n'y a pas vraiment assez de cas.
Moi, à mon humble avis, je pense que les sondages est bel et bien moindre par rapport à ce qu'il y a vraiment, vu que à la capitale où on a accès à l'eau potable.
D'autres, par contre, plaident pour une meilleure sensibilisation sur les mesures barrières afin d'éviter une plus grande propagation de la maladie.
On accompagne la communication avec la sensibilisation porte à porte, tenderie.
Il faudrait plus présenter surtout les dispositions pratiques peuvent appliquer pour remédier à ces fléaux.
Le 14 juillet dernier, Mireille Lemboidio, coordonnatrice provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières, a appelé à une mobilisation collective et à des mesures sanitaires rigoureuses pour protéger les communautés.
Et pendant que les grandes villes font face à des défis sanitaires, c'est la sécurité qui reste préoccupante dans l'est du pays. En Ituri, des combats ont été signalés hier soir entre les FARDC et le groupe armé Zaïre, allié à la milice de Convention pour la Révolution Populaire, CRP, de Thomas Lubanga, entre Iga Barrière et Lopa, et vers Rissasi, proche de Djina, dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, l'armée a réussi à repousser ses hommes armés après une double attaque contre les positions de la police et des FARDC dans le milieu. Le bilan de ces combats n'est pas encore disponible. Cependant, le commerce et le trafic sur la RN27 tournent au ralenti dans les agglomérations le long de cet axe routier. Isaac Moyopé.
Une tension s'observe vers Iga Barrière et Lopa, à plus de 25 km au nord de Bounia, où la milice Zaïre, alliée à la CRP, a donné le week-end dernier un ultimatum de 48 heures au FARDC et à la police de quitter ses entités. Mardi vers 12h30, ces hommes armés ont attaqué les FARDC aux environs d'Iga Barrière. Les combats ont duré environ une heure avant de déloger l'ennemi. Un autre groupe a pris pour cible les bureaux de la police à Lopa, à 35 km de Bounia. Ici aussi, les assaillants ont été repoussés par l'armée venue en renfort. Fort. Tard à la soirée, des échanges de tirs ont été également signalés entre les deux parties vers Rissasi. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore disponible. Toutefois, on signale les déplacements de certains habitants dont les villages sont transformés en zones de combat. La détérioration de la situation sécuritaire affecte également l'économie locale. Les commerces tournent au ralenti et les trafics sur la RN27 restent timides. Les casques bleus de la MONUSCO sont également intervenus pour protéger les civils et dissuader l'ennemi qui est très actif dans la région. Pour rappel, trois attaques de ces groupes armés ont été enregistrées le dimanche 13 juillet, toujours à Iga et Solenyama. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et dans l'actualité des forces armées congolaises, plusieurs changements ont été opérés ce mercredi à la tête de certaines régions militaires. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a nommé des officiers généraux et supérieurs à titre provisoire pour assurer certaines fonctions administratives et opérationnelles. Parmi eux, le général de brigade Fabien Dounia Kashindi, qui devient le chef du département de la formation à l'état-major général, le général Abdallah Niembo, ancien commandant du secteur opérationnel Sokola 1 à Beni, qui devient le commandant de la 31e région militaire à la 3e zone de défense à Kisangani. Il est remplacé par le général Joseph Mugisa Muleka, qui était jusqu'ici à la tête de cette brigade spéciale basée à Mambasa depuis 5 ans. Pendant ce temps, le général de brigade Daniel Mwakou Mbuluku prend la tête de la 33e région militaire pour le Sud Kivu et le Maniema, tandis que la 12e région militaire du Congo central sera dirigée par le général Jacques Mbuyingoy. Enfin, autre nomination importante, le secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu est désormais dirigé par le colonel Benjamin Kisembo Isingoma. Dans le sud Kivu, ce sont des milliers de déplacés qui attendent assistance dans des conditions de plus en plus critiques. La situation humanitaire des personnes déplacées dans les moyens et au plateau des Fizi reste extrêmement préoccupante dans cette partie de la province. Selon l'administrateur du territoire, ces populations fuient les affrontements entre les forces armées de la RDC soutenues par les Wazalendo et la coalition armée composée de Red Tabara, Twagineo et M23 AFC dans les hauts et moyens plateaux. Pour Sami Kalonji Badibanga, ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines, privées des besoins essentiels et exposées à des multiples risques. Il se réjouit toutefois de la présence depuis quelques jours d'une délégation humanitaire remarquée dans la zone venue évaluer les besoins de ces personnes. Sami Kalonji Badibanga s'est exprimé au micro de Ronéline Tibonera.
Nous saluons l'arrivée d'une avalanche de partenaires humanitaires à Fizi, venus pour une mission précise consistant à évaluer les besoins, localiser les déplacés et les enregistrer pour d'éventuelles assistances. Ces déplacés sont essentiellement ceux des moyens et au plateau de Fizi, issus des affrontements opposant le FRDC appuyé par les Wazalendo contre le Red Tabara Tucaneo pro M23 des tristes mémoires.
Retour dans la capitale sur le front urbain, réorganiser le secteur des transports à Kinshasa et mettre en place des mécanismes pour réguler notamment la circulation des motocyclistes dits Wewa. C'est l'objet de la réunion convoquée hier mardi par le gouverneur de la ville. Autour de lui, les ministres provinciaux des transports et de l'intérieur, le commissaire provincial de la police, le représentant de la division urbaine ainsi que des experts de ces secteurs. Daniel Bumba attend d'eux des mesures fortes pour lutter contre les embouteillages créés par les motocyclistes et contre l'insécurité dans ce domaine. Des mesures qui devraient aussi aider la ville à augmenter ses recettes grâce aux taxes prélevées dans ces secteurs importants de la vie kinoise. Le point de cette rencontre avec Boba Misso, ministre provincial de transport.
La ville de Kinshasa aujourd'hui, vous savez, fait face à beaucoup de défis. Et parmi les défis, c'est ce secteur avec les engins cyclomoteurs qui nous posent des problèmes. Et le gouverneur voudrait qu'on puisse assainir ces secteurs, c'est pour ça qu'il nous a convoqués. Nous avons été instruits par le gouverneur de la ville d'arranger ce secteur de la ville. Il y a des mesures qui seront prises très bientôt sur le secteur des taxes, sur le secteur des embouteillages. Le gouverneur nous a instruits de prendre des mesures quant à ceux et bientôt nous allons mettre ça à la place publique.
Toujours à Kinshasa, mais cette fois dans le secteur des infrastructures, un projet de grande envergure a été dévoilé. Il s'agit de la maquette du futur aéroport international de Njili. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a présidé une séance de présentation de la maquette du futur aéroport international de Njili en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette infrastructure sera construite par l'entreprise américaine Skidmore, Owings and Merrill, SEM, pour la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui a pris part à cette présentation. Ce projet illustre le rapprochement économique entre la RDC et les États-Unis au-delà des minerais stratégiques. On écoute Thérèse Kayikwamba dans cet extrait proposé par Pauline Mouzalia.
Il y avait plusieurs ministres sectoriels qui ont participé, y compris le ministère des Affaires étrangères. Je pense que de la perspective de notre ministère, mais c'est un avis qui a été partagé par plusieurs autres collègues aussi, c'est évidemment une symbolique extrêmement positive de voir une entreprise de renommée américaine s'investir dans ce projet d'une telle symbolique. C'est la porte d'entrée vers la République démocratique du Congo. Et ça nous montre justement que dans notre logique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, nous ne restons pas dans une optique qui se limite, comme certains le pensent, uniquement sur les questions de minerais stratégiques, mais plutôt une compréhension beaucoup plus large. Et je pense que ce sera un projet emblématique qui nous montrera comment on pourra aussi imaginer un partenariat plus étroit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, qui va bien au-delà des clichés qui sont pour l'instant, si vous voulez, un peu à la mode. Je pense que cet aéroport pourra nous donner beaucoup d'inspiration sur ce que ces deux pays peuvent faire ensemble.
Selon l'entreprise américaine en charge de la construction de cette infrastructure, le nouvel aéroport international de Njili sera livré à l'horizon 2028. Rendons-nous à Mbujimayi où plus de 100 femmes issues de plusieurs couches de la population ont été sensibilisées hier mardi sur l'entrepreneuriat, du leadership féminin, l'image de femmes politiques, perspectives genre et relations intergénérationnelles des femmes pour une gouvernance locale et inclusive. Ces assises d'un jour ont été organisées dans la salle Prof Cham par le Centre Carter et le réseau des radios associatives et des proximités Raté Proca sous le financement du gouvernement britannique UK Aid. Des explications avec Esther Dalafina.
Plus de 100 femmes ont pris part ce mardi au forum dont le thème principal est intitulé « Femmes leaders, gouvernance inclusive pour un développement durable ». Lambert Mbuikana, président du conseil d'administration du Raté Proca, parle de l'objectif poursuivi en organisant cette activité.
Nous étions très heureux de voir les femmes avoir l'occasion de se parler entre elles, de leurs problèmes et de chercher les solutions.
Gertrude Ndaya, coordonnatrice de l'ONG CFID, Centre féminin de formation et d'information pour le développement, a développé le thème intitulé « Perspectives genre et relations intergénérationnelles des femmes pour une gouvernance locale et inclusive ».
Nous avons présenté les liens intergénérationnels qu'il doit y avoir entre les femmes pour qu'elles puissent participer à la gouvernance locale.
Une des participantes, Annie Kaja, a été édifiée par les thèmes développés.
Ils nous ont stimulés à être des femmes entrepreneurs responsables qui militent pour l'élévation des autres.
Les participantes ont posé plusieurs questions pour enrichir leurs connaissances. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les pluies sont intenses depuis maintenant plusieurs jours en Guinée, et comme chaque année, les pluies apportent leur lot des victimes. Depuis le 1er juillet 2025, les inondations ont fait à Conakry plus de 4000 sinistrés et 6 morts, selon les décomptes des autorités de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires.
L'invité.
Et pour clore ce journal, place à notre invité, l'ONG Collectif des Femmes et Enfants pour la Vie et le Développement, COFEVID, désapprouve la mesure du gouvernement autorisant le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. Invité de Radio Capi, Félicité Ntanga, estime que cette note enfreint les valeurs morales ainsi que les us et coutumes africaines. Elle redoute également que cette décision de la ministre d'État en charge de l'éducation encourage les élèves filles à s'adonner à la vie sexuelle avant la fin de leur cursus scolaire. Félicité Ntanga, s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour Madame Félicité Ntanga.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Quelle analyse faites-vous de la mesure du gouvernement de garder à l'école les filles enceintes?
Oui, nous avons vu la note circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui allait à l'encontre de nos us et coutumes. Vous savez, dans nos traditions africaines, il est important de préserver les valeurs morales et surtout, lorsque la ministre, dans sa note circulaire, alla dans le sens d'encourager les jeunes filles qui tombent enceintes pendant qu'elles sont encore à l'école et que, à travers les dispositions, les réformes venant d'ailleurs, les comportements importés, nous imposant, nous, communauté congolaise, au-delà même de ce que nous avons l'habitude de faire, donc je crois que nous avons maintenant un sérieux problème. Je crois que la ministre devra revoir sa note circulaire parce qu'il est difficile de garder les jeunes filles qui sont enceintes à l'école. Je ne pense pas que les amis élèves pourront peut-être accepter de pouvoir continuer voir leurs camarades dans ces états-là. Et nous, les partenaires socio-éducatifs, parents que nous sommes et tout le collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement, nous rejetons en bloc cette circulaire.
En quoi, Madame Félicité Ntanga, cette note de la ministre enfreint les coutumes congolaises?
Là où le bas blesse, c'est que lorsque Madame la ministre impose, parce qu'elle oblige les établissements scolaires à pouvoir garder les enfants ou les jeunes filles enceintes à l'école. C'est déjà de manière impérative, donc elle impose. Nous, parents africains, nous ne pouvons pas accepter que nos filles, nos enfants tombent enceintes en dehors du mariage. Tous les parents africains aspirent voir leurs enfants aller au mariage et avoir les enfants à travers une relation pieuse. Mais lorsque un enfant tombe enceinte, au moment où elle est encore à l'école, elle peut attendre sans pouvoir astreindre certaines libertés des autres. Ou la morale, lorsque nous éduquons les enfants, ce n'est pas pour qu'ils aillent tomber enceintes. C'est pour que les enfants, en allant à l'école, qu'elles aient une éducation avec des valeurs morales congolaises de notre communauté. Et là, nous pouvons applaudir que toutes les filles qui tomberont enceintes pendant qu'elles sont encore à l'école, elles peuvent attendre l'accouchement et après l'accouchement, elles pourront regagner l'école. Et ça pourra donner un bel exemple aux autres pour que, à leur niveau, à leur tour, qu'elles ne puissent pas refaire le même bêtise qu'a fait leurs amis.
Vous demandez aux filles d'attendre alors que son collègue garçon, qui est dans la même salle que lui, continue les études. Vous ne pensez pas que c'est une sorte d'injustice que Madame la ministre voulait corriger?
Moi, je ne pense pas que c'est une forme d'injustice. C'est une éducation. Si il s'avérait que une fille avec un garçon qui sont dans la même salle ait connu cette bêtise, on doit suspendre les deux s'ils sont d'une même école. Mais lorsque la fille tombe enceinte d'un autre garçon qui ne fait pas partie de cette école-là, nous, à notre niveau, on va préserver l'image des valeurs qui incarnent notre système éducatif. Point barre. On ne met pas de côté que la fille pourra regagner. Mais elle doit attendre une année.
Alors, si la fille est déjà mariée, qu'en dites-vous?
Ici, nos lois autorisent les filles qui ont atteint l'âge de maturité d'être peut-être mariées. Mais nous fustigeons le comportement de ceux qui tombent enceintes pendant qu'elles sont encore mineures. C'est ça le problème. Mais lorsque l'enfant atteint déjà l'âge de maturité et que la dot avait été déjà versée et que l'enfant trouve que elle peut continuer avec les cursus, jusqu'à ce qu'elle termine. Ça dépendra de son état de santé. Toute fille qui tombe enceinte, on doit les réinsérer dans les systèmes pour que leur futur soit garanti.
En marge de cette mesure gouvernementale, quel message lancerez-vous d'abord aux filles qui étudient encore, aux parents et puis aux chefs d'établissement?
Je voudrais dire aux filles qui étudient encore qu'elles ont un bel avenir devant elles, qu'elles soient patientes, qu'elles étudient et qu'elles se protègent. Parce que les mariages, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Et aux chefs d'établissement, ils ne peuvent pas accepter de garder une fille qui tombe enceinte. Ça ne donnera pas un bel exemple aux autres au moment où les enfants doivent se concentrer pour les études. Les parents devraient protéger, encadrer les enfants pour que qu'elles ne tombent pas enceintes pendant qu'elles sont encore à l'école, parce que on voudra voir nos enfants aller au mariage.
Madame Félicité Tanga, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal, mis en onde par Dieudonné Nyangasa et coordonné par Polly Mouzalia. Merci de l'avoir suivi.